l'écoute de RFI, il est 22h en temps universel, minuit à Paris.
24h en France.
Et tout de suite, l'actualité française en 10 minutes.
Sophie Pouzrat.
À la une, deux marches blanches ont eu lieu dans le sud de la France en hommage à Hichem Mirawi, quadragénaire tunisien assassiné le 31 mai dernier par un voisin raciste. Il y a un an, jour pour jour, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale, une décision qui marque toujours les députés. À la une également, la conférence de l'ONU pour l'océan s'ouvre ce lundi à Nice, dans le sud du pays, un sommet que RFI va suivre toute la semaine.
RFI.
Deux marches blanches ont eu lieu ce dimanche en hommage à Hichem Mirawi dans le sud du pays. La principale s'est tenue à Puget-sur-Argent, là où s'est produit le crime. Hichem Mirawi, âgé de 46 ans, d'origine tunisienne, a été abattu par un voisin qui l'avait injurié avec des propos racistes. L'homme suspecté du meurtre a été mis en examen pour assassinat terroriste de la victime en raison de son origine. 1600 personnes, selon la police, ont marché depuis le salon de coiffure où il travaillait jusqu'à la mairie, derrière une banderole blanche où était écrit « Repose en paix Hichem, un enfant au grand cœur adopté par le village ». Un reportage d'Alain Gastal de Radio France.
Sur la vitrine du salon de coiffure où officiait la victime, des mains anonymes ont écrit sur des post-it « Hichem, on ne t'oubliera pas, tes sourires, ta gentillesse, repose en paix ». Michael était un voisin de la victime, Antoine, un de ses clients.
J'habitais au-dessus de chez lui, c'était une personne agréable, toujours serviable et on n'avait pas de soucis avec lui. C'était une bonne âme.
Hichem, il ne méritait pas ça quoi. Moi, chaque fois, il me disait tout le temps que j'allais au coiffeur.
Et vous connaissiez aussi celui qui l'a tué ?
De vue, un ancien légionnaire. On ne tire pas sur un mec, c'est une balle pour une chamaille.
C'est du salon de coiffure que la marche est partie. Elle se voulait résolument apolitique et silencieuse. Pas de banderole, pas de slogan. Quelques discussions quand même, comme celle-ci entre Majid, ami d'Hichem et organisateur, et Fatia, qui aurait voulu que soient plus clairement dénoncées les idées racistes à l'origine du meurtre.
Tout le monde le connaît, ce monsieur.
C'est un tueur,
oui.
Il est raciste.
Tout le monde le connaît. Même les policiers le connaissent.
Madame,
et vous avez entièrement raison.
On est tous révoltés. Moi, je le connais, c'est un très bon ami à moi.
Voilà, c'est pas normal.
Je suis brûlé de l'intérieur.
C'est pas normal.
Vous me restez sur nos bases, s'il vous plaît. Justice sera faite. Justice sera faite.
Un seul incident très bref, quand Sébastien Delogu, le député France Insoumise de Marseille, a été pris à partie par quelques marcheurs quand il est entré dans le cortège avec son écharpe tricolore. Il l'a finalement enlevé avant d'être applaudi.
Un reportage d'Alain Gastal de Radio France. C'était il y a un an, jour pour jour, ce dimanche, après les résultats des élections européennes donnant le Rassemblement national en tête devant le camp présidentiel, le chef de l'État prenait la parole. À la télévision, Emmanuel Macron a annoncé la dissolution de l'Assemblée nationale et il avait créé la stupeur jusque dans son propre camp. Un an plus tard, les députés sont encore marqués par cette décision qu'ils n'ont pas comprise. Emma Vogli-Maxi.
Un an après, quels sont les apports de la dissolution ? J'en vois pas.
Céline Calvez, comme la plupart des macronistes, ne s'en est toujours pas remise.
En 2017, on avait de nombreux projets de loi, on avait aussi une majorité absolue. C'est un temps pour lequel j'ai encore de la nostalgie.
Pour les députés, la dissolution, c'est un échec. L'Assemblée est ingouvernable, selon le socialiste Jérôme Guedj.
Un an après, à l'Assemblée nationale, c'est paralysie politique, c'est crispation et brutalisation encore plus grande du débat politique. Bref, c'était une décision folle.
Charles de Courson, député Liot, va même encore plus loin.
En fait, il a voulu organiser le chaos. Il a assez bien réussi d'ailleurs, pensant qu'il allait reprendre la main. Les Français en ayant marre, allaient revenir. Il s'est complètement trompé.
Le Rassemblement national, lui, a en travers de la gorge l'après-dissolution. Pour Jean-Philippe Tanguy, le Front républicain leur a volé la victoire aux législatives.
Les forces du système nous ont empêché Jordan Bardella d'être Premier ministre et de résoudre les vraies difficultés des Français.
Le RN espère une nouvelle dissolution. Ce sont les seuls, avec les insoumis comme Éric Coquerel.
La situation aujourd'hui dans laquelle nous sommes à cause de M. Macron ne peut être résolue que par le peuple. Donc je n'ai jamais peur du retour au peuple.
Il devra encore attendre. Le président pourra officiellement dissoudre l'Assemblée nationale dans un mois, à partir du 8 juillet.
Emma Vogli-Maxi. Emmanuel Macron, qui est arrivé à Nice par bateau pour la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan, l'UNOC 3. Les ONG environnementales et les scientifiques espèrent voir dans cette réunion internationale un coup d'accélérateur pour mieux protéger la haute mer. Et depuis longtemps, ils interpellent l'État français sur la question du chalutage, une pratique très destructrice, toujours autorisée dans les aires marines protégées, des zones à l'écosystème particulièrement fragile. Aujourd'hui, en France, seuls 0,1% de ces zones sont réellement interdites à la pêche industrielle. Emmanuel Macron veut les passer à 4%, donc il y a du mieux. Mais pour les ONG et les chercheurs, ce n'est toujours pas assez. Lucille Gimbert.
D'ici fin 2026, les zones où les fonds marins sont ou seront fortement protégés représenteront 4% des eaux françaises près de l'Hexagone, contre 0,1% aujourd'hui, promet la ministre de la Transition écologique. Agnès Pannier-Runacher assure aussi que toutes les activités ayant un impact sensible sur les fonds marins, comme le chalutage et l'extraction minière, seront interdites. Une accélération sans précédent de la protection forte d'après l'exécutif. Mais scientifiques et ONG en doutent fortement. D'abord, ces annonces ne concernent que les fonds marins. La protection des espèces marines qui vivent entre le sol et la surface des océans est renvoyée à des concertations locales déjà en cours où chaque pression humaine est examinée au cas par cas. Pour les ONG comme Bloom ou Greenpeace, le gouvernement français fait même un tour de passe-passe en annonçant la protection de fonds où le chalutage est soit déjà interdit, soit pas ou peu pratiqué. 4% sans définir ce qu'est la protection forte, c'est vraiment pas glorieux, critique pour sa part le scientifique spécialiste des écosystèmes marins Philippe Curie. On ne fait pas ce qu'on dit qu'on devrait faire, déplore ce chercheur de l'IRD, et la nature n'attendra pas, beaucoup d'espèces vont continuer à disparaître.
Lucille Gimbert, la sauvegarde de ces espèces au cœur donc de la 3e conférence des Nations Unies sur l'océan qui débute ce lundi et pour l'occasion, RFI se délocalise à Nice. Pour suivre le sommet, ça commence avec une édition spéciale. Rendez-vous ce lundi à 7h, temps universel. Et ça se poursuit toute la semaine sur nos antennes et aussi sur notre site internet. L'actualité, c'est aussi la question des retraites, un dossier qu'on sait brûlant dans le pays. Dans un rapport qui sera rendu public dans la semaine, le Conseil d'orientation des retraites suggère un recul de l'âge de départ. Un rapport que la CGT entend bien faire évoluer, c'est ce qu'a déclaré sa secrétaire générale Sophie Binet ce dimanche. Du sport à présent, football, l'équipe de France est allée chercher la 3e place de la Ligue des Nations en battant l'Allemagne 2-0 à Stuttgart. Des buts de Michael Olise, de Kylian Mbappé, son 50e déjà en 90 sélections. La défaite face à l'Espagne est oubliée, les Bleus se quittent sur une bonne note et avec les compliments du sélectionneur Didier Deschamps au micro de TF1.
Bravo, parce que c'est pas évident, ça se serait mal passé, j'avais aucune excuse et les joueurs aucune excuse, mais bon, il y a des situations quand même compliquées dans l'état d'esprit, la volonté, la possibilité qu'on a de faire mal à l'adversaire, c'est quelque chose d'intéressant. Bon, on finit 3e, c'est mieux que 4e. On finit la saison sur une victoire face à l'Allemagne. Donc, maintenant, pour nous, c'est les vacances, pas pour les joueurs, malheureusement. Et puis, on aura deux gros matchs après en septembre en qualif parce qu'on a les deux meilleures équipes avec l'Ukraine et l'Islande.
Le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, et c'est le Portugal qui sort vainqueur de cette Ligue des Nations face à l'Espagne après une finale qui s'est achevée au tir au but. On quitte les terrains de foot direction le tournoi de tennis de Roland-Garros qui a vu une page de son histoire s'écrire sur la terre battue ce dimanche. La finale simple messieurs opposant l'Espagnol Carlos Alcaraz et l'Italien Yannick Sinner est la plus longue de l'histoire du tournoi et c'est Carlos Alcaraz qui en est sorti vainqueur au bout de 5h29 d'un combat homérique. Il a conservé sa couronne parisienne en terrassant le numéro 1 mondial en 5 manches. L'Espagnol, qui a sauvé 3 balles de match consécutives dans le 4e set avant de renverser la situation à l'issue d'une finale qui a atteint des sommets en termes de rebondissement et de qualité de jeu. L'ancienne numéro 1 mondial et quadruple lauréate de Roland-Garros, Justine Hénin, en est restée bouche bée au micro d'Éric Mamrut.
C'est vraiment complètement dingue ce qu'on a vécu. On a tout eu. On a vu un, puis on a vu l'autre, puis on s'est dit que ça pouvait être encore l'autre, là, qui allait retourner la situation. Et puis il y a cette folie, cette magie qui émerge. On a un numéro 1, un numéro 2 qui sont exceptionnels, qui vont nous offrir des très grands rendez-vous. Ce ne sera pas à chaque fois comme celui-là. Il ne faut pas non plus toujours espérer qu'on va pouvoir partir dans de telles sphères. Mais quand ça arrive, on savoure. C'est au-delà d'aimer le tennis, en fait. Et c'est vrai qu'on a tout eu d'Alcaraz aujourd'hui, avec ses hauts et ses bas, tel qu'il peut nous le montrer. Mais avec cette dimension-là aussi, qui fait que c'est un homme des grands rendez-vous. Quand il est dos au mur, le bras ne tremble pas ou peu. Mais la fierté qu'il a aujourd'hui, c'est d'être revenu d'aussi loin. Il défend son titre, un 5e majeur, là, à son âge. Bah, on s'incline et puis voilà, il nous transporte, Carlos Alcaraz. Il n'y a pas une plus belle vitrine que lui et la magie de son jeu aujourd'hui.
Carlos Alcaraz qui reste invaincu, donc en 5 finales de Grand Chelem. Yannick Sinner, lui, a connu sa première défaite après 3 finales de majeur remportées. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Minuit et bientôt 10 minutes à Paris, 22h10, en temps universel.